Yes, you're giving that a few hours. Tell her things, you know, Marsh. Pardon? You don't look up at this bed, Mr. Gordon. Me? Rest case, isn't it? Prenez donc le tableau de la que nous allons lire attentivement, chapitre 13, verset 19, suivez-le en hébreu ou en français, si vous avez comme texte. Et le 19, le 16. Juste après les versets précédents, nous avons commencé à étudier, et où la Torah nous indique que le peuple, parce qu'il est riche avec ses différentes parties, ses différentes couches et ses différentes motivations, et a fait ce détour par le désert et va arriver donc devant la mer Rouge. La Torah nous indique que Moïse, avant de quitter l'Égypte, va emporter avec lui les ossements de Joseph. Donc nous allons d'abord étudier le verset, voir ce que Rashi enseigne à ce sujet, et puis immédiatement prendre l'enseignement du Maharal après. Alors le verset dit ceci: Vaïkar Moshe et Moïse prit et Atmos Yosef et Mot les ossements de Joseph avec lui, qui, car, Ashvea Ishvia, il avait fait jurer et devenait Israël, les enfants d'Israël, les morts en disant, Pako Divko Delokim Etrem, Dieu vous désignera le moment fixé. Ce mot, c'est l'expression de Pako Divko, la racine Pako a énormément de sens en hébreu. Je vais vous donner le sens qui va avec ce contexte. Littéralement, ça veut dire tenir compte de ce que le temps d'un certain événement est arrivé. Et en particulier, on l'emploie pour la conception d'un enfant. Par exemple, dans VHM, Pakadessa. Mais ce mot a énormément de sens. Il n'y a pas de racine en français qui puisse recouvrir l'ensemble de ses significations. Et donc, le moment venu, que Dieu vous désignera, vous ferez monter mes ossements d'ici avec vous. Et vous dites par le soleil. Alors, le commentaire de Rashi. Rashi va expliquer la répétition du verbe. Ben, le verset 19 du chapitre 13. Rashi va d'abord expliquer la répétition du verbe. Oui, c'est une expression habituelle en hébreu de répéter le verbe, mais il n'y a pas simplement une redondance formelle, il y a toujours une intention précise du texte. Vous voyez l'expression dit, Ashbear Ishbiar, faire jurer, il avait fait jurer. Alors prenons l'explication de Rashi sur cette expression déjà. Bon, on va voir chaud. Vous avez la pluie de Jésus. Ishbiaram, la répétition signifie ceci. Joseph avait fait jurer à ses frères qu'ils fassent jurer à leurs enfants jusqu'au moment venu. Puisque, effectivement, Joseph avait parlé à ses frères, vous verrez le texte à la fin du livre de la Genèse, à la fin du livre de Bereshit, à l'occasion du rappel de la promesse que Jacob avait fait faire à Joseph lui-même, de ne pas le laisser enterrer en Égypte, mais de ramener ses ossements, enfin son cercueil, disons, directement dans le pays de Canaan. Vous rappelez du contexte dans la fin du livre de la Genèse, et notez un élément qui nous servira dans l'explication du Maharal, c'est que le corps de Jacob, dès sa mort, a été momifié par les Égyptiens, mais dès sa mort a été remonté en Eretz Israël. Et nous allons voir qu'il y a une différence entre le niveau où se situe Jacob lui-même dans ce problème et le niveau où se situe Joseph et ses frères. Et donc, à ce propos, et la Torah nous raconte que toute la famille des enfants d'Israël était remontée dans le pays de Canaan pour accompagner le cercueil de Jacob. Et en principe, ils auraient pu profiter du fait qu'ils sont remontés de l'Égypte en Israël pour y rester. Enfin, ça ne s'appelle pas encore le pays d'Israël, ça s'appelle le pays de Canaan, mais disons, Israël en tant que pays de la promesse. Mais, entre-temps, ils avaient accepté le contrat de Joseph, et avec, je ne sais pas comment dire, héroïsme, ils sont redescendus rejoindre Joseph en Égypte. Est-ce que vous comprenez le... C'est un... Comment dire, pas un détail, mais enfin... Un aspect de l'événement auquel on n'est pas toujours sensible, mais sur lequel je voudrais un peu m'appesantir avant de voir la suite de l'enseignement de Rachid. C'est que, finalement, vous vous souvenez, nous avons assez souvent parlé de cela de différentes manières. Dès l'origine, à la racine même de l'identité d'Israël, dès la constitution de la famille de Jacob, il y a une tension de deux messianités différentes. Vous vous rappelez de cela? La messianité Joseph et la messianité Judas. Or, finalement, il y a différents moments de péripéties dans ce conflit de tendance qui, à l'origine, à la racine, est très violent. Il y a un procès réciproque en traîtrise de l'un par l'autre. C'est-à-dire, les frères de Joseph, avec à leur tête Judas, ont fait un procès à Joseph, et selon la Gemara, Joseph était passible de mort. Et finalement, c'est Réhouven d'abord, le premier-né de Léa, et ensuite, surtout, Judas qui intervient pour le sauver de la mort. Et donc, ça signifie que derrière ce procès, il y avait un problème grave. Inversement, Joseph met en accusation ses frères. Dans, nous n'avons pas les livres ici, mais enfin, vous avez un peu ces récits en tête. Mm-hmm. Lorsque Joseph, j'allais dire calomnie ses frères, mais disons, les met en accusation, une sorte de mise en doute d'identité, avec une toute autre motivation. Je vais essayer de reprendre les deux motivations. Et, mais au début, ce conflit est très violent. Et finalement, une sorte de constellation des forces se met en place et il y a une collaboration de ces deux tendances. Et la Torah nous a raconté le conflit, la réconciliation et donc la réussite de cette unité d'Israël à partir de l'opposition des deux pôles, Joseph, Judas, jusqu'au bout, dans l'histoire de la famille de Jacob. Et nous suivons donc la même méthode avec l'enseignement du Maharal. Et cette histoire est préfigurative de ce qui va arriver de la société d'Israël jusqu'à la fin des temps. Et par conséquent, à travers toutes les générations, tous les temps jusqu'au temps messianique, nous revivons ce problème. Opposition de ces deux polarités d'identité messianique et en fin de compte mise en place d'une polarisation d'unification qui mène à l'aboutissement messianique. Mais là je prends les choses à la racine et je vais introduire par un enseignement de la Kabbalah de telle sorte que Baptiste nous permet d'aller un peu plus rapidement. Et la raison pour laquelle Joseph va être mis en accusation par ses frères. Et c'est tout le procès qui se passe dans cet endroit qui s'appelle Dothania, près de Shrem, vous vous rappelez. Et finalement, les frères de Joseph se constituent en tribunal et le condamnent à mort. Mais ils ne peuvent pas quand même appliquer la peine de la condamnation de principe. Ils le condamnent finalement à sa faute, à ce qui est considéré comme sa faute. C'est-à-dire à commencer l'aventure qu'il souhaite, lui, dans sa conception de la messianisme. Pour certains d'entre vous, déjà, ces choses obscures sont un peu plus claires, mais Léas, lentement, je vais expliquer un peu pour tout le monde. Lentement, je parle lentement en attendant ceux qui sont encore dans les escaliers. Et là. Mais ça, nous allons revoir dans le sens de l'historiographie. Qu'est-ce que ça signifie les attendus de ce procès réciproque, nous en avons deux, donc, la mise en accusation de Joseph par ses frères et l'accusation des frères de Joseph par Joseph. Vous avez tout cela dans le, en particulier en chapitre 37 de la Genèse, la paracha de Vayeshev. Quand Jacob revient du pays de Laban, après la rencontre et la confrontation avec Ésaü, et qu'il s'installe dans le pays de Canaan, commence à se mettre en place cette rivalité, Joseph d'un côté, Judas et ses frères de l'autre, avec comme enjeu Benjamin. Vous vous rappelez du problème? En fait, compte, pour avancer un peu, pour éclairer l'écran historique, en fin de compte, le temps va s'installer pour l'aventure de Joseph. Et Joseph va réussir à attirer Benjamin en Égypte avec lui, et à travers Benjamin, tous ses frères, le père, toute la famille, toute l'identité d'Israël, rejoint, disons, les rêves de Joseph. Vous voyez à peu près comment c'est maintenant. Mais nous devons avoir en détail, donc au niveau de l'historiosophie, mais il y a un enseignement de la Kabbalah qui nous fait comprendre que il y a encore un autre niveau. Que dans tous les cas, Joseph devait être mis en accusation parce qu'il est l'incarnation de Caïn en tant que premier-né. Et en tant que premier-né qui s'affirme comme étant le seul fils. Vous voyez exactement l'identité Caïn que nous avons vue au séminaire précédent, mais un tout autre exposant. Une identité Caïn qui, d'emblée, s'annonce comme allant réaliser de façon achevée la rédemption de la faute de Caïn. Mais avant que cette rédemption ne se fasse et ne s'achève, il est donc mis en accusation parce que Joseph, jeune, enfant, présente apparemment les mêmes signes que Caïn lui-même. Pour le moment, nous avons une analogie formelle importante, c'est le fait qu'il est le premier-né. Et c'est appuyé sur le verset 2 du chapitre 37, lorsque la Torah commence, entreprend de raconter toute l'histoire des enfants de Jacob, à partir du moment où Jacob s'est installé dans le pays de Canaan jusqu'à la sortie d'Égypte, c'est introduit par l'expression suivante, je vais la mettre au tableau, mais ce n'est pas nécessaire, et les toldos Yaakov et Yosef. Et d'abord, je vous lis le pshat. Voici les engendrements de Jacob dans le sens de l'histoire de la famille de Jacob jusqu'à ce que, en fin de compte, l'exil prenne fin vraiment à la sortie d'Égypte. Mais le terme employé, c'est le mot de toldos qui signifie les engendrements. Et alors que le pshat, vous connaissez tous le sens du mot pshat, le sens direct, c'est « Voici l'histoire de Jacob. » Deux points. Joseph était âgé de 17 ans lorsque tout cela a commencé. Et alors, Joseph va finalement être envoyé dans son rêve d'exil, de diaspora, si vous voulez, jusqu'en fin de compte, lui-même diagnostique qu'il doit passer le relais à la messianité de Judas en disant ce verset que nous venons de lire là dans notre verset de Shmot. Et lorsque le moment sera venu de prendre acte qu'il faut remonter dans le pays de Canaan, ne me laissez pas en Égypte, emmenez mes ossements avec vous. Et pourquoi s'est accroché précisément à cet endroit du récit, et ensuite je reviendrai sur la lecture de la Kabbalah, c'est parce que Jacob, revenu de chez Laban, croyait que la nécessité du temps d'exil qui avait été annoncé à Abraham s'était achevée avec son propre exil à lui, Jacob. Il croyait qu'il avait réussi à, comment dire, éponger, c'est le mot que je voulais éviter, mais enfin il n'y a pas d'autre mot en français, et à accomplir, intégrer toute cette nécessité de la mise à l'épreuve dans l'exil, dans sa propre histoire, lui, Jacob, chez Laban. Et c'est pourquoi le verset peut dire « Vayeshev Yaakov, Be'eret Megure Avi » que Jacob s'est installé dans le pays où ses pères étaient encore comme des étrangers. C'est-à-dire que Jacob a considéré que le temps de la promesse s'achevait avec lui, que ses pères ont vécu la relation de promesse à la terre, mais que lui commence le temps de l'installation, de la réalisation de la promesse. Est-ce que c'est clair? Et tout de suite, nous voyons le verset suivant, alors que commence l'histoire des rivalités entre Joseph et ses frères. Et la Midrash dit à ce propos, « Bikesh Yaakov Avenu, Michel Beshalva » pour expliquer le mot « Vayeshev ». Parce que vous voyez le contraste qu'il y a entre « Vayeshev Yaakov » et « Eretz Megure Abi ». Il y a une contradiction. Vayeshev et Jacob s'installent là où ses pères, Abraham et Isaac, étaient... C'est pas une histoire de nomades. Étaient considérés encore comme des étrangers. Mais Gouré habille. Séjournement provisoire. Vous voyez ce qui se passe? Il y a vraiment une collision de termes. Alors, le Midrash intervient et dit « Bikesh Yaakov Avinu, Michel Beshalva » et Jacob, notre père, a recherché à s'installer en Shalva, en Shalva. C'est pas la Halva, hein. Mais ça s'écrit comme ça. Mais en, non, en, paix et shalom, repos et shekel. Shalva, très bien.
Ça vient de
Shalva? Shalva, non. Ah, je ne pense pas, non. Shalva, vous connaissez pas. Tranquillité. Shalva. Shin. Okay. Lamed. Vav. pas bête. Va, voilà. Ça va. Bien. Tocfo Roxo chez Yosef. L'impétuosité de Joseph l'a bousculé. Voilà ce que dit le Midrash. Alors, je reviens sur ce point parce que c'est important. Il y avait une annonce faite à Abraham d'une nécessité d'un passage par l'exil avant l'installation. Bon. Vous vous rappelez de ce verset, on dit à la Gada de Pessah, « Yadoa tzedar ki gezeri ezaracha veret olahem arba meot shana » Tout le monde connaît le verset. Et puis, Jacob a vécu l'épreuve de l'exil. Et il a cru, dit le Midrash, qu'il avait, lui, réalisé cela, et que le temps était venu de pouvoir s'installer dans le sens du Nishou, qui a été repris d'ailleurs de notre temps. Mais voilà que il est bousculé par ce qui se passe entre Joseph et ses frères. Et alors, je reprends le verset maintenant pour notre sujet, et simplement vous rappelant une fois de plus, pour ceux qui étaient peut-être arrivés un peu en retard, indépendamment du contenu historique que nous avons élucidé d'après les versets, que nous allons avoir élucidé, le fait qu'il y ait procès entre Joseph et ses frères vient déjà de ce verset-là. Parce que Joseph s'affirme à travers ce verset, à peu près, disons, dans le contenu, en tout cas dans la même attitude que Caïn par rapport à Abel. C'est moi le fils, c'est par moi que ça passe. Et les autres, disqualifiés. Comment le Midrash dit cela? Et les Tondot, Yaakov, Yosef. Et les autres. Voici les engendrements de Jacob, Joseph. Vous voyez? Alors que le Pshat est tout à fait différent. Voici l'histoire de Jacob de point. Joseph était âgé de 17 ans quand tout ça a commencé. Et le Midrash va isoler une unité de lecture. Et les Tondot, Yaakov, Yosef. Voici les engendrements de Jacob, Joseph. Comme si Joseph apparaît ici comme un principe de sélection d'identité qui rejetterait et les autres, et qui continuerait la sélection qui avait commencé Abraham. Ce que j'explique, Abraham n'est pas Lot, Isaac n'est pas Ishmael, Jacob n'est pas Esaü, Joseph n'est pas les autres, point d'interrogation, produit. Vous voyez, c'est clair? C'est-à-dire, indépendamment du contenu des contestations. Après, nous allons, si j'oublie d'ailleurs, vous me raccrocherez à ce niveau du récit, nous allons comprendre le contenu des contestations. Et elles sont réciproques. Mais formellement, la Kabbalah nous dit, Yosef va résoudre le problème de Caïn. Et puisqu'il s'est affirmé comme un Caïn possible, il a été condamné à mort. C'est clair? Ensuite, nous allons voir qu'effectivement, c'est lui qui va assurer définitivement la rédemption de la faute de Caïn. Et c'est la raison pour laquelle le livre de la Genèse va s'achever avec son histoire, parce que c'est avec lui que l'identité d'Israël est constituée. Le premier-né capable de fraternité. Et c'est clair, justement. Bon. Et nous le savons déjà au moment de sa naissance. Je vous rappelle, on l'a peut-être vu déjà une fois à notre étude, peut-être que vous l'avez vu avec d'autres. Au moment de sa naissance, Rachel, sa mère, le nomme Yosef. Avec quel verset? En disant, Yosef, Hachem, li, ben, aher. Que Dieu m'ajoute un autre fils. Vous vous rappelez de cela? Bon. Ça nous renvoie au niveau Caïn et Abel. Lorsque Caïn est né, l'autre fille qui est née avec lui était en danger. Lorsque Joseph est né, Rachel l'a vu, le Midrash dit avec le Roi HaKodesh, avec l'inspiration prophétique, elle a vu un premier-né capable de fraternité. Alors elle dit, que Dieu m'ajoute un autre fils, sous-entendu, il ne sera plus en danger. Et c'est le moment précis de la fin de l'église. Vous suivez tout ça? Oui. Okay. Puisque le contexte nous dit, et lorsque Jacob lit que Joseph était né, il dit à Laban, laisse-moi rentrer chez moi, nous avons fui. C'est pour ça que Jacob, arrivé dans le pays de Canaan, pensait que l'exil était définitivement fui. Il ne savait pas, ou il faisait semblant de ne pas le savoir, qu'entre Joseph et ses frères, ça n'allait pas tellement bien. Il appria que c'était fini. Quoi? La faute de Caïn. Le premier-né qui ne supporte pas les autres. Ça, c'est Caïn. Alors que Joseph, c'est Dafka, le contraire. Le premier-né qui aime ses frères. Vous avez compris la relation de... Alors je reprends l'analyse de la préfiguration. En fait, il en est ainsi. C'est-à-dire que c'est avec cette histoire que la faute de Caïn trouvera son tikkun, sa rédemption. Mais il y a des péripéties. Et au début, c'est pas si clair que ça. Ce n'est qu'à la fin qu'il se dévoile que malgré toutes les apparences, Joseph est vraiment un premier-né qui aime ses frères. Mais cette histoire est déjà annoncée avec l'os premier-né, le premier-né de Léa, qui est Réhouven. Et c'est pourquoi c'est précisément Réhouven qui va intervenir pour sauver Joseph, et ensuite Judas. Là, il y a différents thèmes qui convergent. Je ne vais pas vous emmener dans trop de directions à la fois, mais très rapidement. Il y a un passage à la Guémara de Sanhedrin qui explique les noms des enfants de Jacob, comment ils ont été nommés. Soit que ce soit la mère qui les ait nommés, soit que ce soit le père, soit que ce soit Dieu lui-même pour certains. Et à propos de Réhouven, voilà ce que la Guémara donne comme explication. Pourquoi elle l'a appelé Réhouven, dit la Guémara, et on s'attendrait à une explication simple des brahisans d'Ulpan. Réhouven, regardez sa fille. C'est trop simple. Réhouven, ça aurait pu être une fille d'abord. C'est pas ça, dit la Guémara. La Guémara dit Réhou ma ben béni le ben hami. Ça veut dire regardez la différence qu'il y a entre mon fils et le fils de mon beau-père. Si c'est le fils de son beau-père, son mari, tu peux croire. Non, le frère de son mari, c'est-à-dire Ésaü. Ésaü était un premier-né méchant, mais regardez mon premier-né, la différence qu'il a avec l'autre. Voilà ce que dit la Gemara. Ça, c'est clair? Donc, voilà donc ce qu'il y a dans Réhouven. Et nous avons ce sens-là pour tous les enfants de Jacob. Ils sont tous des premiers-nés capables de fraternité. Vous allez me dire, ils n'étaient pas tous premiers-nés, mais Jacob était celui qui a hérité de l'identité premier-né, bien que n'étant pas le premier-né. Tous les enfants d'Israël sont des premiers-nés. Béni de Hori Israël. Et alors, voilà donc ce que dit Léa quand elle voit son fils. Le tikkun est fait. Mais là où vraiment le tikkun est fait, c'est avec Joseph. Et lorsque Joseph est né, Rachel voit que c'est la fin de la faute d'Ésaü. C'est pas d'Ésaü, donc de Caïn, c'est le même. Et elle dit, Yosef Hashem li ben Acher. Ne vous trompez pas de lecture. Le Midrash évacue une lecture apparente, une hypothèse apparente. C'est un fils, pas une fille. C'est-à-dire qu'il me donne encore un fils, pas une fille. C'est pas ça, dit le Midrash. Il dit, le souhait de Rachel, c'est que maintenant il peut y avoir un frère et que le frère ne sera pas en danger. Et verset suivant, Jacob dit, c'est la fin de l'exil. Pourquoi? Et là, je vous dis quelque chose d'important. Parce que dans tous les cas, l'exil est la punition du non-amour entre les frères. Et l'exil avait commencé avec Caïn. Retenez bien ce qui se passe là. Effectivement, de quoi Caïn a été puni? Nar vanav. Par l'exil. Le premier juif errant, c'était Caïn. Et après, il n'y a plus que des juifs aberrants. Et à partir du moment où apparaît l'identité de fraternité au niveau du premier-né, c'est la fin de l'exil. C'est le diagnostic de Jacob. Et c'est pourquoi Jacob dit à Laban tout de suite, ah, il est né, l'enfant. Salechenina ve elecha el mekomi vela. Alors maintenant, renvoie-moi et j'irai à mon endroit et à mon but. J'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. Lorsque Jacob va envoyer Joseph chez ses frères à Shechem pour se faire passer en procès, il dit la formule inverse. Lecha, lech veeshlachacha. Va et je t'enverrai. Mais lorsque Jacob annonce la fin de l'exil, Joseph partant, c'est l'exil. Mais lorsque Jacob, à la génération précédente, annonce la fin de l'exil, il inverse l'expression. Qui peut expliquer? Je répète. Jacob, en voyant Joseph, et ça commence l'histoire de l'exil, jusqu'à Moïse, la sortie d'Égypte, lui dit, lech veeshlachacha. Va, je t'enverrai. Alors que Jacob, pour mettre fin à l'exil, dit l'inverse. Il dit « Shalecheni ve'elecha ». Renvoie-moi et j'irai. Qui peut expliquer? C'est très simple. Si vous ne pouvez pas expliquer, ça me fait plaisir. Parce que ça veut dire que vous êtes déjà un petit peu israélien. Je vous ai aidé un peu, maintenant vous allez la voir. Quand on envoie quelqu'un dans une mission difficile, on lui dit « va ». Et si tu vas, je t'envoie. C'est clair? C'est joli d'ailleurs, c'est plein d'humour du but. Il va, il dit d'accord, alors je t'envoie. Je ne peux pas t'envoyer si tu ne vas pas. C'est clair? Bon. Voyez les couches, n'ayez merde, par exemple, pour le sacrifice. Mais voilà que pour quitter l'exil, Jacob est obligé de dire à la bande, renvoie-moi, parce que je m'en irai pas. J'avais réuni vers l'air. Vous avez tout compris? À quoi c'est relié? À notre verset par lequel on a commencé. Voyez, Béchalaf par Oreta. Oui, c'est très court. Ils étaient intelligents, ces épreuves. Et alors, Là, mais c'est grave, c'est grave, mais c'est comme ça. Chalecheni, ve'elecha. Si tu ne me renvoies pas, je m'en vais pas. Mais ne croyez pas que je ne t'en reste pas. Parce que ça nous explique dans une dimension positive quelque chose d'assez incompréhensible. Pourquoi les juifs sont tellement en retard pour décrocher quand il faut décrocher? Qui peut répondre? L'explication n'est pas négative, c'est pas une question d'intérêt, les allocations familiales, tout ce que vous voulez. Ça, les pots de viande de l'église, c'est autre chose. D'une certaine manière, qu'est-ce que Jacob veut faire dire à Laban en lui disant « Renvoie-moi et je partirai ». Il lui dit « D'après moi, c'est le temps, puisque Joseph est né, c'est la fin de la punition de Caïn, l'exil. Okay » Alors vous allez me dire « Mais la punition de Caïn, Jacob ?» Bon, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce que Jacob veut faire comprendre à Laban ?« Renvoie-moi, sinon je ne m'en vais pas. »
Moi, tu n'as plus besoin de moi et je te renvoie.
Par exemple, mais il ne t'a plus. Et c'est très dangereux. Ça veut dire qu'il lui dit, je t'en prie, deviens antisémite, sinon je ne peux pas partir. Et c'est ça qui va arriver. Il deviendra antisémite. Non, que c'était le beau-père. Qu'est-ce Pardon?
Ça rappelle la procédure du divorce, la réciliation.
C'est le même mot, shiduchi. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a... Eh bien, non, c'est la réponse.
Non, mais attendez, c'est juste un état, une question que l'évêque est une chose très importante.
Quand?
À propos du divorce et des juifs. Parce que je me sens que le divorce n'est pas venu aux juifs, il est venu aux juifs.
La question a été posée à moi.
Non,
il y a une question, elle ne porte pas sur le divorce. Mais il y a une question, c'est si la Torah considère que le mariage des goïms est un mariage. C'est un autre problème. Finalement, au niveau de la Torah, on ne considère pas, enfin, ce n'est pas le même contrat, mais selon les rabbins, on doit tenir acte qu'un mariage fait par le maire est aussi valable au point de vue légal. Pas au point de vue religieux, mais au point de vue légal. Vous comprenez ce que je dis? Parce que ce sont déjà des sociétés qui ont accepté une forme de loi morale, d'après leurs propres critères. Ce n'est pas le contrat tel que la Torah l'institue, mais c'est un contrat. Vous comprenez le problème? Et alors donc, si c'est vrai pour le mariage, c'est vrai aussi pour le divorce. Non, du point de vue, en tout cas, de notre problème, ça veut dire qu'il y a un contrat. L'exil, c'est un contrat. Un contrat qui est institué chez Abraham déjà. Il y a Doar, Tedar, qui hier, Zaracha, Veret, Lolaem, c'est comme ça. Il y a une dimension de l'identité d'histoire d'Israël dès l'origine, avant que l'histoire ne commence, qui est dévoilée. Il y a des temps de contrat de travail chez les nations. Et par conséquent, Jacob peut dire, moi je pense que le temps est arrivé, Joseph est né. Mais il faut qu'il demande la permission de Laban. Est-ce que d'après toi, le contrat est suspendu? Or, il va se dévoiler que le contrat ne sera pas suspendu. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi après. Mais nous trouvons la même chose chez Moïse et Jéthro. Quand Moïse est chez Jéthro, et qu'en fin de compte, il y a la vision du buisson ardent, okay, et que, avant de quitter Midian pour retourner en Égypte s'occuper des Hébreux, 40 ans après, vous rappelez, alors il y a Vayoël, Moshe, la Chevet et la Ish, et quand Moïse était arrivé et qu'il a épousé Tsipora. Vous rappelez ceux qui ont étudié ce texte de Moïse à Midian, Rachid nous dit, et il a fait comme son père Jacob. Il s'est installé auprès du puits, vous rappelez, et puis la fiancée est venue, Tsipora, mariage, et il y avait un contrat avec Jéthro. Et alors, avant de repartir, Moïse va demander la permission à Jéthro. Et Jéthro la lui donne. Mais Laban n'a pas donné. Et Jacob s'est enfui. Vous vous rappelez de ça? Alors on va simplement faire un tout petit compte, et ça va nous éclairer le problème précédent. C'est que, en fait, Jacob aurait dû rester 21 ans chez Laban. Il n'est resté que 20 ans. Pourquoi? Parce que la haine de Laban s'est dévoilée de façon tellement dangereuse à la fin de la 20e année, qu'il fallait que Jacob s'enfuit sur l'initiative de cette femme, d'ailleurs. Il est vrai que toujours, le salut vient par les femmes dans l'économie de cette histoire. L'initiative vient des femmes, comme ensuite à la sortie d'Égypte. Hein, c'est la mère et la sœur de Moïse qui déclenchent. Et pourquoi? Parce que, une petite parenthèse, que vous avez appris cela dans le Pirkei Avot, il y a une définition du Chacham, une définition de la sagesse, qui est extraordinairement important dans ce sujet. Ezehu Chacham, qui connaît la Mishnah de Pirkei Avot? Vous connaissez pas? Quel vous connaissez? Ah, l'homme est Nicolas Adam. C'est justement l'homme. Ah, Aroet Anola. Traduit. Traduit, c'est une interprète. Aroé, celui qui voit est un olav. Nahon, qui c'est ça? La seule femme. C'est le pshat. On interprète et c'est le sens d'ailleurs. Ezehu Chacham, de qui on peut dire qu'il est Chacham? De celui qui prévoit l'avenir. Mais dans quel sens? Il prévoit ce qui s'engendre dans le présent. Nolav. C'est clair? C'est-à-dire qu'il prévoit les implications du présent. De lui, on peut dire qu'il est Chacham. Et vous voyez qu'à tel point, il y a peu de Chachamim. Et alors, mais le Pshat est très précis. Ça nous explique que cette dimension de sagesse est d'abord féminine, en tant que c'est la femme qui voit l'enfant qui naît. Alors, on revient à l'exemple que j'ai eu avec Rachel et Joseph. Elle voit l'enfant qui naît, elle sait qui il est. Alors ça se rattache à un thème général, qui est que la Gemara enseigne de façon très claire à propos de Sarah et Abraham, qui est qu'il y a eu des hommes prophètes et des femmes prophétesses, mais que la capacité prophétique des femmes a été toujours plus grande que celle des hommes. Pourquoi? Parce que finalement nous avons là une définition importante de la prophétie, parce que la prophétie ça consiste à savoir ce qui va venir d'après ce qui s'est passé. C'est clair? C'est-à-dire, c'est les mères qui savent par où ça passe, par quelle lignée ça passe. Le père, il fait semblant de fermer les lignes. C'est la mère qui dit c'est lui et pas lui. Regardez, tous les récits de sélection, Sarah intervient, elle dit c'est celui-là, c'est pas celui-là. Rivka intervient, elle dit c'est celui-là, c'est pas celui-là, etc. Okay? Le père, il est désorienté. Mes fils, c'est mes fils. Vous voyez ce que je veux dire? Okay? Mais la mère, impitoyable, elle sait par où ça passe. Pourquoi? Parce que c'est elle qui les a fabriqués. Vous voyez, l'important de la halakha, que c'est par la mère que l'identité passe. Et elle a une définition très très importante, je pense, de ce que la Torah appelle la capacité prophétique. Alors il y a un verset, lorsqu'Abraham est désorienté de ce qui arrive à Ishmaël, dès que Sarah intervient, Dieu lui dit, tout ce que te dit ta femme Sarah, Shemar de Kola, écoute sa voix. Et la Gemara ajoute tout de suite, de là on apprend que les femmes sont plus prophètes que les hommes. Abraham, c'est pas n'importe qui, c'est le prophète par excellence. Mais c'est quand Sarah lui dit, ça passe par là, que Dieu confirme. C'est elle qui arrive. Vous voyez ce qui se dévoile. Je crois que nous avons parlé une fois de cela, c'était il y a longtemps. Et alors, ça explique une expression que je voudrais vous expliquer. C'est pourquoi dans la prière, on demande à Dieu miséricorde, pas comme la mère a miséricorde, mais comme le père a miséricorde. Vous avez remarqué cela. C'est « Rahamenu » la suite, « Kerahem Av Albani ». Et miséricorde, comme le père a miséricorde sur ses enfants. On pourrait s'étonner. Et la mère, est-ce que ce n'est pas plus le symbole de la miséricorde pour ses enfants? D'autant plus que le mot de miséricorde se rattache à la racine, qui veut dire la matrice. La miséricorde, c'est le sentiment de la matrice. C'est pas qu'il a une matrice, c'est qu'il est la matrice. Le processus par lequel la Kabbalah explique ça est très précis, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais voilà ce que je précisais. C'est-à-dire, le Père semble, dans le récit prophétique, être incapable de pouvoir intervenir pour choisir entre ses enfants. Tandis que la Mère sait le faire, et de manière impitoyable. Mais il y a une autre expression pour la Mère, c'est que la mère est consolatrice. Keish asher inahamenu imo. On dit av merahem et ima menahemet. Pas merahemet, mais menahemet. C'est-à-dire consolatrice. Donc, vous voyez ce que ça implique. Et alors, je reviens donc au problème. À propos de quoi je débarrasse tout ça. Vous voyez la charnière avec le texte.
Le va et je t'envoie et...
Ah oui, mais...
C'est parti sur l'initiative des femmes.
Oui, oui. Alors j'explique. En fait, oui, je raccroche. En fait, Jacob devait rester 21 ans. Le compte est très simple. 7 ans pour Rachel, encore 7 ans pour Rachel, puisqu'entre temps il a eu Léa. Tu veux bien cela, 7 ans pour Rachel et encore 7 ans pour Rachel. Et puis 7 ans pour le troupeau. Et puis, ça faisait 21 ans. Alors au bout de ces 20 ans, ça devient grave. Qui perçoit l'antisémitisme de Laban? Le mot est anachronique, mais la chose, Dieu préserve. L'antisémitisme de Laban, les filles de Laban, les femmes de Jacob. Jacob ne voit rien. Mais les filles disent, vous reverrez le texte, nous avons vu que la face de notre père a changé. Alors on se sort. Vous suivez le texte. Et puis, bon, Jacob prend acte et on se sort. Laban court derrière, comme après le pharaon va courir derrière. Et puis, c'est là que Dieu se révèle à Laban et lui dit, ne le touche pas, vous verrez toi. Laban dit à Jacob, si ton Dieu ne s'était pas révélé à moi pour me dire, ne le touche pas, je t'aurais tué. Voilà le récit. Hein? C'est une préfiguration totale. Or, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette année de service de Jacob chez Laban, eh bien, il va falloir la récupérer. Voilà la racine du fait que Jacob avait pu croire qu'il pouvait s'installer et que tout le tikkun de l'exil était achevé, mais le rêve de Joseph va intervenir et va tout bousculer. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Un an qui manquait. Est-ce que c'est clair ce que je dis là avec les mots hébreux? Alors cette année-là, il va falloir la payer 400 ans en Égypte. Seulement, comme il a fallu partir aussi très vite, trop vite de l'Égypte, parce que l'Égypte devenait trop labanique, si j'ose dire, on est parti 210 ans après, il restait 190 ans. Okay? Alors ces 190 ans, il va falloir les payer plus tard. Mais la péripétie est la même. Vous voyez? Sortie de l'Égypte, Bechipazon, c'est-à-dire avec précipitation, comme Jacob est sorti de chez Laban avec précipitation. Et puis, le pharaon se ravise, comme ça on dit, oui, exactement comme Laban s'était ravisé et a couru derrière Jacob, le pharaon court derrière le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Alors, c'est 190 ans qui nous a manqué en Égypte et qui ont été, vous savez, économisés par qui? Qu'est-ce qui a rendu possible qu'on puisse sortir d'Égypte 190 ans avant? Vous vous rappelez pas? On est parti? On devait rester 400 ans, on est resté que 210. On est resté que 210. Je vous remercie. Vous avez. Est-ce que quelqu'un a de la clé? Oui. Vous avez trois nombres dans le récit de la Torah. 400, 430 et 210. Alors je vais vous expliquer les trois. Voilà. Depuis la vision qu'Abraham a eue, où l'exil lui est annoncé, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a eu 430 ans. Depuis la naissance d'Isaac jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a eu 400 ans. Et depuis la descente de Jacob jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a eu 210 ans. C'est clair? Alors si nous prenons le chiffre de 400 ans qui correspond au contenu de temps de cette annonce de l'exil à Abraham, et c'est en réalité 210 ans qu'on est resté, la différence c'est 190 ans. C'est clair? Bon. Alors, voilà ce qui se passe. Je vous fais le raisonnement. C'est pas tellement figé, je vais un peu rapidement. C'est ceci. Le verset dit, « Yadoar tedar ki yeriye zarach. » Savoir, tu sauras que ta postérité sera ger beret olaev. Étrangère dans un pays qui ne leur appartient pas. Or, l'exil historique a commencé quand? À partir du moment où la famille de Jacob a rejoint Joseph en Égypte. De ce moment de la famille de Jacob jusqu'à Moïse, la sortie d'Égypte, il n'y a eu que 210 ans. Mais depuis la naissance d'Isaac jusqu'à ce moment-là, il y a eu 400 ans. Pourquoi? Parce qu'entre la naissance d'Isaac et la descente de Jacob en Égypte, il y a eu 190 ans. Donc ça fait en tout 400. Ça veut dire que la Providence a compté que le début de l'exil commence dès que Isaac est né, parce que c'est Isaac, la postérité d'Abraham, à qui c'est annoncé. Et le mérite d'Isaac, c'est d'avoir pris sur lui d'être comme un exilé sur sa propre terre pour économiser à sa descendance 190 ans d'exil. Et c'est pourquoi, vous rappelez le verset tout à l'heure, « Vayeshev Yaakov Beret Megure Abi » C'est pourquoi, surtout, il y a à propos de Isaac quelque chose d'extraordinaire, il habite dans un endroit qui s'appelle Gerar. « Vayeshev Yitzhak Bigrar » Où Isaac s'est installé dans le pays de Canaan, à un endroit qui s'appelle Guéra. Ça veut dire
l'étranger.
Les métèques. L'endroit de l'écran. Et comme vous dites, les territoires occupés. Puis alors, voilà ce que le Midrash explique. Les patriarches auraient voulu prendre sur eux l'Église. Mais ils ont été obligés d'admettre que ce n'est pas pour eux, que c'est pour leurs descendants. Et je reviendrai sur ce thème. Mais alors, ils ont quand même obtenu d'économiser le plus possible le temps de cet exil en prenant sur eux la condition d'exil à partir du premier qui s'appelle descendant, c'est-à-dire Isaac. Et c'est clair. Après, je vous donnerai le remède et pourquoi c'est comme ça. Le remède est très simple. Vous l'avez dans la Gada de Pessah. C'est Akadosh Baruch Hu, Richer et Taketz. Ça veut dire que Dieu a compté la fin pour faire sortir l'Israël. Il a compté la fin en prenant le commencement à la naissance d'Isaac. Et le mot de quête signifie la fin, c'est comme ça qu'on écrit un. Vous savez, c'est pas un fait, ça. Alors c'est notre. Alors, oui, ça je peux la mettre. Le mot de quête, c'est comme valeur numérique, 180. Ça veut dire que pour arriver, alors qu'on n'était qu'à 210 ans, à ce que l'on soit vraiment à 400 ans, on a commencé le début des 400 ans, pas à la descente de Jacob en Égypte, mais à la naissance d'Isaac. C'est clair ? Pourquoi ? Par le mérite d'Isaac qui a pris sur lui cette condition de l'exiler chez lui pour l'économiser de ses enfants. Et je vais expliquer pourquoi. Dans tous les cas, vous verrez que c'est deux des lettres du nom de Yitzhak qui est là. Il porte ça en lui. Mais, parce que le Midrash explique comme ça. Dieu a demandé à Abraham, puis à Isaac, puis à Jacob, qu'est-ce que tu préfères pour ta descendance ? L'exil ou l'enfer ? Ils ont réfléchi, dit le Midrash, comme s'ils avaient réfléchi, c'est pas la même chose. Et ils ont dit l'exil. Qui peut expliquer pourquoi ? Ils ont réfléchi. En fait, je veux dire, pour celui qui comprend que c'est l'exil, il n'y a pas de différence. Pour les juifs, il n'y a pas de différence. Mais pour les goïms, il y a une différence. Laquelle ? Mais comment, formellement, d'après notre sujet ? Et l'enfer aussi, rassurez-vous. Grâce à Dieu. Ben justement, ça vient par là. C'est-à-dire, voilà. Ou bien, Israël ira en exil pour sauver les goïms, ou bien les goïms vont tomber dans l'enfer, alors il faut que les juifs aillent dans l'enfer. Les patriarches ont réfléchi, ils ont dit, sauf, on verra bien, allez l'exil. En fin de compte, c'est la même chose, mais pour les juifs, c'est la même chose, mais pas pour les juifs. Vous avez compris le. Et alors, maintenant, pour revenir au fond du problème, pourquoi les patriarches ont voulu économiser à leur descendance pour ce problème de vie ? Et oui, les patriarches étaient les sionistes, ils n'aimaient pas la diaspora. Ils ont dit, je te donne ma vie, mais ne va pas en gagner. C'est ma fille. Pourquoi ? La réponse est très simple. Hein ? Parce qu'ils pouvaient s'engager pour eux-mêmes, mais pas pour leurs fils. Alors ils préféraient, eux, prendre ça sur eux. Mais ça est clair. Mais pourquoi c'était pour leurs fils et pas pour eux ? Et c'est là qu'on est vraiment dans le fond du sujet. Premièrement, eux étaient capables de s'engager pour eux. Parce que c'est à eux que la promesse a été faite. Ils étaient les hommes de la promesse. Donc ils étaient capables de la foi dans la promesse. Et en tant qu'ils étaient capables de la foi dans la promesse, ils pouvaient prendre sur eux les péripéties de la réalisation. Alors que la promesse ne leur a été donnée que par délégation, pour l'être fils. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est ça le problème. Ils ont pris ça sur eux. Oui, et à la limite, c'est absolument au niveau ontologique, métaphysique. C'est-à-dire, l'être père n'est pas chez lui dans ce monde-ci. La terre, c'est la terre des fils. Ce monde-ci, c'est. Et la différence entre être père et être fils, je ne sais pas si on l'a étudié ici déjà, être père, c'est l'être de promesse, l'être fils, c'est l'être d'accomplissement. La racine ben se rattache à bano, construire, bignan. Ab, c'est les engendreurs. Et donc, vous voyez qu'il y a une différence de relation à la promesse et à l'accomplissement entre les pères et les filles. C'est pourquoi il y a un chidouche dans la Gemara qui insiste que la terre sera donnée aussi aux pères, mais après les fils. Il faut d'abord que les fils la reçoivent pour que les pères la reçoivent aussi.